le 23e, c'est-à-dire dans des conditions malheureusement de précipitation et d'un manque de moyens criants. Mais le résultat est qu'on a une personne condamnée à 18 mois de prison pour des faits totalement imaginaires. L'accusation a un petit côté, touche pas à la femme blanche, certains. On a fait en fait une poursuite qui a été assise sur le sentiment de la non-crédibilité de M. Kamagaté et du sentiment de crédibilité que donnait la victime, mais sans le moindre élément objectif étayant l'accusation ou la simple existence de l'infraction. L'inégalité, elle était certaine dans le contact avec les policiers, hein, puisqu'on avait une jeune femme ayant fait des études secondaires et s'apprêtant à faire des études supérieures d'un côté, et puis un SDF illettré et analphabète de l'autre. Mais j'ai surtout le sentiment, moi, d'une enquête judiciaire et d'une justice de pauvres, avec des moyens de justice de pauvres. Et tout ça fonctionne pas bien. La justice a incontestablement besoin de moyens, de temps, de réflexion. Et on voit très bien ce que peut donner lieu une justice expéditive, car ça a été une justice expéditive.
Mais ce qui est quand même choquant, c'est que pendant tout le long, personne ne l'a écouté. Il clamait son innocence, il n'a jamais avoué. Personne ne l'a écouté, il a été transparent.
Oui, il a été complètement transparent, il a été complètement inaudible. C'est un fantôme. Ça a été un fantôme sur nos trottoirs, ça a été un fantôme dans la procédure. Nous avons à la fois un regard critique à apporter sur les conditions générales de fonctionnement de la justice pénale, mais aussi du regard que nous portons sur ce genre de personnes, sur ces personnes quand on passe à côté d'elles, on ne les voit pas. Je crois qu'on ne l'a pas vu non plus dans toute la procédure et qu'on n'a pas voulu le voir. Non, il a été absent, c'était un objet, personne ne l'a entendu, personne ne l'a informé. On est allé le chercher au centre de rétention, on l'a mis en garde à vue, de la garde à vue il est passé au dépôt du palais, du dépôt du palais à l'audience correctionnelle, et de l'audience correctionnelle à la détention, et puis un jour il est ressorti avec une décision de la commission de révision, disant qu'il y a peut-être effectivement moyen de révision, et ordonnant sa libération. Et il a été déplacé comme ça, comme un pion, sans avoir du tout la maîtrise de son sort. Et dans un fonctionnement, encore une fois, qui n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, c'est ni extraordinaire dans la façon de fonctionner, ni révélant des personnalités perverses. Mais ça a dérapé. Ça a dérapé quand même, et c'est peut-être ça le plus effrayant, c'est qu'une justice conduite dans les conditions ordinaires de son fonctionnement avec des gens de bonne volonté, compétents et faisant leur métier, peut déraper dans de telles proportions.
Au-delà de la peine, il y a quand même une double peine, entre guillemets. Au-delà de la peine, il y a quand même des conséquences psychologiques après qui restent pour la personne qui a été condamnée à tort.
Bah, j'ai failli devenir fou, parce que je parlais toujours les mêmes choses tous les jours.
Ça, dans d'autres affaires, hein, ça s'est vu, hein, comme l'affaire Doutreau, donc à partir du moment où il y a des agressions sexuelles, en fait, et surtout quand la personne est innocente, il y a une destruction après qui se fait, hein, psychologique.
Je dis, ben, écoute, j'ai rien fait, c'est pas pourquoi je suis là. C'est pas normal qu'il soit là. Parce que je ne sais pas ce que j'ai rien fait, de toute façon, la personne. Pendant tous les jours, j'ai parlé les mêmes choses.
Alors aujourd'hui, on a compris, Varama Kamagaté est en liberté, mais pourtant, l'affaire n'est pas entièrement close, bien évidemment, c'est pas réglé. L'affaire va être rejugée. Anne Sevaux.
Donc là maintenant, l'affaire va être rejugée, à la fois l'histoire de l'agression sexuelle, celle de l'infraction aux droits des étrangers, à la législation des étrangers.
La difficulté particulière, c'est que M. Kamagaté a été condamné d'une part pour tous les faits relatifs à l'agression, dont on sait maintenant qu'elle n'existe pas, et d'autre part pour infraction à la législation sur les étrangers, qui est un délit qui est indéniablement constitué dans son cas, puisqu'il était en situation irrégulière et qu'il a la nationalité ivoirienne. Il va donc être jugé pour le tout, ce qui va être, à mon avis, beaucoup plus délicat pour la partie civile que pour lui, pour le volet agression sexuelle. Ce volet-là ne m'inquiète pas trop. Reste l'ILE, ça, je dirais qu'il serait peut-être assez élégant de la part de l'État français de faire un geste sur sa situation.
Élégance, c'est peut-être un peu demandé. Élégance de l'État français. Espérons, pourquoi pas. Françoise Margot, que nous retrouvons, est l'avocate de la pseudo-victime, mademoiselle Alexandra G., 20 ans.
Alors, Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est